l'on parle. Et le FM 98, c'est Saguenay.
J'ai au téléphone Fabien Major, notre chroniqueur économique du mardi, qui est au bout du fil. Bonjour, M. Major.
Bonjour.
J'ai plein de questions pour vous.
Ah oui?
Oui. Allons, la première, le mouvement Desjardins qui serait visé par un recours collectif d'1,2 milliard de dollars sur certains produits d'épargne qui n'auraient pas rapporté. Est-ce que vous êtes au courant?
Oui, oui, absolument. C'est un dossier que je suis très prêt puisque ces produits-là ont éclaté dans le sens qu'on a tiré carrément la plug en 2008-2009 quand la crise commerciale, la crise économique plutôt a débuté, la crise financière, on doit maintenant l'appeler. Ce sont des produits que beaucoup ont achetés. En fait, on soupçonne que dans toutes les divisions de Desjardins, il y en avait pour 5 milliards de dollars. Ce sont des certificats de dépôt garantis qui s'appelaient Indice Plus Stratégique, Indice Plus Tactique et Gestion Alternative. Mais ce que je décris, qui est vraiment dommage, et en fait, peut-être si le recours est autorisé, on va entendre les spécialistes les gens de droit s'argumenter là-dessus, c'est que le personnel au comptoir, moi, je soupçonne qu'il ne pouvait pas l'expliquer correctement et il ne pouvait même pas le comprendre. Alors, quand la direction peine à expliquer un produit, c'est sûr que le personnel au comptoir peut aussi avoir beaucoup de difficultés.
Et donc, le personnel au comptoir faisait croire que c'était des placements assez sûrs, alors que c'était hyper risqué, c'était dans le fameux papier commercial, c'est ça?
Mais c'est là la notion, c'est que le risque, il est nul dans ce cas-là de perdre son argent, de perdre son capital investi, parce que essentiellement, ce qu'on reproche à Desjardins, c'est de ne pas pouvoir faire de rendement. Les produits sont bloqués et on ne pourra pas retrouver l'argent avant 2015, mais là-dedans, évidemment, quand quelqu'un fait un placement, c'est pour avoir un certain intérêt. Mais comme ces placements sont sûrs, sont très sûrs de ne pas faire aucun rendement, ben c'est là, évidemment, qu'on soupçonne un manque à gagner de 1,2 milliard pour les 5 milliards investis. C'est de l'intérêt manquant. En fait, ce qu'on n'a pas très bien expliqué, c'est qu'on avait d'une partie des obligations à 70 % et à 30 % de la spéculation, et à l'échéance, tout le monde retrouve son capital. Ça, c'est le plus grand risque. Mais ce qu'on a oublié d'expliquer, c'est que les fameuses obligations qui servaient de base à sécuriser le produit étaient en fait du papier commercial. Et celui-là ne peut plus s'échanger, ne peut plus changer de main, ce qui fait qu'on respire avec un peu comme la chaise musicale. Et on reproche aussi à Desjardins de ne pas avoir restructuré le placement, ce qui fait qu'on est certain de ne pas avoir de rendement avant 2015. C'est pas une perte phénoménale, parce que beaucoup se trouvent carrément à subir leurs pertes et ont des placements. Pensez à ceux qui ont du Nortel, qui ont eu du Nortel dans le temps, ou des Brix, des choses comme ça. Ils ont complètement perdu le capital investi aussi. Mais là, de ne pas avoir très bien expliqué ce produit-là et de se retrouver avec rien, il y en a qui le prennent pas.
Donc, c'est pas le risque qu'on a fait prendre aux gens, c'est le fait qu'on leur a pas dit quel risque ils prenaient. C'est ça?
Exactement. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on avait insoupçonné toutes les ramifications dans quoi le papier commercial était réellement investi. Et c'est un peu ce qu'on reproche aux dirigeants de Desjardins. Mais si le recours est autorisé, moi, je prévois que ça va engendrer tout un effet de cascade. Et la CIBC, la Banque nationale, la BMO ont lancé une multitude de billets à capital protégé semblables qui ne font absolument aucun rendement, parfois pour une période allant jusqu'à 9 ans, et les gens vont vouloir ensuite aller poursuivre aussi ces institutions.
OK, donc Desjardins ne serait peut-être que le premier d'une série si jamais le recours collectif est autorisé. Ça
absolument.
Va paver la voie aux autres.
Il y a vraiment des milliards et des milliards de dollars dans ce genre de produits-là.
Est-ce que ça pourrait fragiliser notre industrie bancaire?
Oui. Peut-être bien le genre de poursuite, mais à tout le moins, ils vont restructurer le genre de produit et le marketing. Au moins, mettre à l'avant au comptoir du personnel capable d'expliquer dans quoi s'investit, c'est un minimum.
Vous vouliez me parler d'un seul homme qui fait perdre 2,3 milliards de dollars à son employeur. Comment ça?
Oui, il est passé à la postérité, M. Kweku Adoboli. C'est un Ghanéen d'origine. Il vivait à Londres depuis longtemps, mais il va comparaître demain face à la justice londonienne. Il a été arrêté vendredi après que ses patrons aient découvert qu'il avait mis à risque pour 10 milliards la banque UBS. 10 milliards, mais il y avait déjà 2,3 milliards de volatilisés irrécupérables. La banque a beaucoup de difficultés financières ces temps-ci. Elle a fait des coupures pour à peu près 2 milliards dans son personnel et on s'aperçoit finalement que ces coupures ne serviront à rien puisque un seul homme a fait autant de dommages. Comment quelqu'un peut arriver à faire autant de pertes dans une seule institution? Et le plus grand scandale, c'est peut-être parce qu'il faisait son petit manège depuis le 1er octobre 2008. Et ça, c'est un bel exemple du laxisme du monde bancaire. Il y a 4 divisions dans une banque. Il y a les prêts, les dépôts. Cette division-là, tout le monde la connaît. Il y a la banque d'affaires qui prête de l'argent à des grandes entreprises et qui fait les entrées en bourse. Il y a la division investissement qui fait des produits, comme on vient de parler, avec Desjardins et d'autres, qui offrent des fonds communs, des choses comme ça. Et l'antichambre, ça, c'est un département, si on peut dire, secret, camouflé derrière, que le public n'a pas accès. C'est là où la spéculation se joue tous les jours sur les capitaux propres de la banque. On joue sur n'importe quoi. Les devises, la couenne de part, le café, les taux d'intérêt, les indices boursiers. Et l'objectif, lorsqu'on engage des types comme Kweku Adoboli, c'est qu'ils fassent de l'argent quotidiennement. À tous les jours, on veut qu'ils engrangent des taux d'intérêt, des rendements, des gains spectaculaires, le plus possible, parce que 80% des revenus, des bénéfices des banques aujourd'hui proviennent de cette division.
OK. Donc, je leur confie de l'argent et ils boursicotent avec pour pouvoir ramasser l'essentiel de leur cash.
Oui, et évidemment, qui dit 80 % des revenus, dit 80 % des bonis des patrons.
Ah
alors,
oui!
Alors, les patrons ont fermé les yeux sur les activités de M. Adoboli depuis le 1er octobre 2008 parce que jusqu'à maintenant, il parvenait à faire des millions en bonis, justement, à ses supérieurs.
Et donc, il a réussi à leur faire perdre 2,3 milliards avant qu'ils s'en rendent compte?
Oui, absolument. Et il prenait des positions. Il y avait toujours des certaines limites parce qu'on lui dit, tu peux pas engager davantage que 500 millions au nom de la banque. Mais lui, il faisait fi, il contournait ces règles-là et puis on tolérait ses agissements. C'est pour ça qu'il le faisait depuis si longtemps. Mais n'allez pas croire qu'il est le seul parce que je suis pas mal convaincu que dans bien des organisations, il y a de types pareils. Kerviel, avec la Société Générale en France, a fait exactement la même chose. Il s'est rendu à 50 milliards.
Vous vouliez me parler de l'industrie du cinéma qui est arrangée avec le gars des vues, mais il y a une manchette qui m'inquiète dans la presse affaires ce matin. La fin de Research in Motion. Ils ont l'impression que Research in Motion, les propriétaires de BlackBerry, sont en train de s'en aller sur la bombe, un peu comme Nortel autrefois. Est-ce que c'est possible?
Oui, en fait, c'est inquiétant, mais la grosse différence avec Nortel, je crois, c'est que Research in Motion a des revenus concrets, a des bénéfices. Et lorsqu'on a annoncé dernièrement, la semaine passée, que les bénéfices étaient moindres qu'attendus, étaient quand même intéressants, là, on parle de milliards de dollars en revenus, eh bien, le marché n'a pas aimé, les analystes n'ont pas aimé, on a puni le titre qui a perdu encore une fois 20%. Mais c'est toute une dégringolade de 140 dollars à peu près 20 dollars. Le titre de Research in Motion n'arrête pas de perdre. Et en une seule séance, la semaine passée, la capitalisation totale boursière de Research in Motion a fondu de 3 milliards. C'est inquiétant parce que...
Est-ce que c'est le temps d'acheter?
Pardon?
Est-ce que c'est le temps de l'acheter?
Si c'est le temps de l'acheter, ben, si vous voulez prendre un certain risque, parce que l'ennui avec Research in Motion, c'est qu'ils n'ont rien dans le moulin, ils n'ont rien dans le collimateur qui peut rivaliser avec les téléphones Android ou encore les fameux iPhones. Les produits Apple ont la cote et ceux de BlackBerry, ben, on dit que ça, c'est des téléphones intelligents pour le troisième âge.
Oui, effectivement. La plupart des gens que je connais qui avaient un BlackBerry ont migré vers du iPhone. Ou
oui, c'est beaucoup plus souple comme appareil, c'est certain. Mais c'est ça qui fait mal à Research in Motion, c'est que beaucoup d'entreprises vont maintenant opter pour l'iPhone avec des applications qui leur sont propres et ils délaissent le BlackBerry qui était à l'origine un téléphone intelligent pour le monde des affaires.
Monsieur Major, on se parlera de l'industrie du cinéma la semaine prochaine, si vous voulez bien, parce qu'elle m'intéresse puis j'ai l'impression que c'est une arnaque compliquée que vous allez m'expliquer.
Elle est simple, mais on s'en reparle la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Fabien Major, spécialiste en économie.
Plus qu'une radio. Le FM 98, c'est Saguenay.